Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un gros coup de sirocco sur la Corse. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Ça ne va pas durer longtemps Sébastien, mais dans l'ouest de l'île en particulier, c'est très très chaud aujourd'hui.
Oui, c'est l'air du Sahara qui donne effectivement ces températures torrides sur l'ouest de la Corse. On a d'ailleurs déjà battu un record du côté d'Ajaccio avec plus de 39 degrés. Mais ça ne va pas durer puisque de l'air plus frais va arriver par l'ouest, coupant un petit peu cet effet du sirocco.
Et ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Quelle est la tendance pour Météo France?
Eh bien, on attend plusieurs vagues orageuses qui vont progressivement se développer du sud-ouest vers le nord-est, mais ailleurs ce sera plus calme avec alternance de belles éclaircies et de passages nuageux.
A tout à l'heure Sébastien Léas pour les détails. Un autre gros coup de chaud diplomatique pour l'instant et un peu plus la tension États-Unis-Iran après les explosions dans deux tankers dans le détroit d'Ormuz hier. Washington accuse clairement l'Iran, vidéo à l'appui. Les États-Unis sont une menace à la stabilité régionale et mondiale, répond Téhéran. Pour analyser cette nouvelle crise, notre invité sera l'ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicoulot. Vente trompeuse, 10 millions d'euros d'amende contre la SFAM, une société qui assure les téléphones et tablettes. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Des milliers de personnes sont concernées, Fabien.
Des consommateurs floués, ils croyaient bénéficier d'une réduction sur le prix de leur téléphone ou de leur tablette. Ils souscrivaient en fait une assurance payante sans le savoir.
A tout à l'heure pour les détails dans ce journal encore, l'enquête de Maxence Lambrec, la stratégie du Rassemblement National pour les municipales, cartographie et mine d'informations également sur franceinter.fr. L'homme qui a vu l'ours, mais pour de vrai, nous entendrons un randonneur qui a croisé de très près un ourson et sa maman. La France lance l'éolien en mer, quasi inexistant aujourd'hui. J'ai testé pour vous l'archéologie. Ce week-end, ce sont les journées nationales de l'archéologie pour apprendre à fouiller et faire la différence entre un os et un caillou. Écoutez Mathilde Dehimi devant un squelette avec un formateur patient.
Progressivement s'approcher de la
nuit. Oui, quelque chose arrivé là.
On voit des côtes apparaître. On voit une côte qui apparaît.
Je crois que je vois quelque chose.
Alors là, c'est un caillou.
Ah, la suite du cours tout à l'heure et des chantiers de fouilles ouverts partout en France ce week-end. Si vous préférez rester à l'abri, un conseil de série télé en fin de journal. À 13h30, ce sera la marche de l'histoire. À 14h, la tête au carré spéciale, ma thèse en 180 secondes. Ce sera en direct de Grenoble. 13h02, le programme est affiché. Vous pouvez entrer.
France Inter.
Et commençons donc avec ce coup de sirocco en Corse, le vent venu du Sahara. La façade ouest suffoque en particulier. Très grande chaleur, poussière de sable, les écoles sont fermées à Ajaccio. Fenêtres fermées, clim est sorti déconseillé dans les maisons de retraite. Et pour les ouvriers sur les chantiers, un enfer, Olivier Castel.
Il est 10h30 et le mercure touche les 40 degrés. Dans le quartier des Padoules, les ouvriers construisent la future rocade. Dans un trou sous les couches d'enrobés, Thiago et Manuel doivent poser des canalisations.
À 6h du matin, il faisait 30 degrés.
Ouais. Là, vous restez jusqu'à quelle heure?
À 4h30.
Et vous avez les bouteilles d'eau, vous avez tout ce qu'il faut?
Oui, on a tout. Oui, oui. Le patron est dans tout.
Vous espérez que ça ne va pas durer trop longtemps quand
même. Oui, oui. Moi, j'espérais. Demain, je crois que c'est bon.
100 mètres plus loin, Sébastien, géomètre de 42 ans, fait des relevés. Assis dans sa voiture sur le parking d'une grande surface, il s'arrose le crâne avec sa bouteille d'eau.
Eh oui, il fait très chaud. En partant de Propriano ce matin, à 7h30, on avait 31. En arrivant sur Ajaccio à 8h moins le quart, j'avais 35 à la voiture.
Et vous allez passer toute la journée dans cette chaleur?
Malheureusement, oui.
Christiane, la soixantaine, elle, a fini ses courses et elle se dépêche de rentrer chez elle.
De toute façon, on n'a aucune action, donc on supporte, hein.
Supporter,
ouais. Oui, on boit, on se met à l'ombre. Là, j'ai fait mes courses, je vais filer à l'ombre et voilà. Ah, je vais me mettre sous les arbres, c'est bon.
Vous avez de l'ombre chez vous?
Oui.
Vous avez prévu tout ce qu'il faut?
Oui, j'ai prévu tout ce qu'il faut. Vous devriez porter un chapeau quand même. Hein.
La bienveillance est de mise. La municipalité d'Ajaccio a fait fermer toutes les écoles en prévision de ce coup de sirocco. De quoi réduire les embouteillages aussi et permettre aux petits et grands d'aller se baigner.
La chaleur et un incendie qui s'est déclenché à Sartennes en fin de matinée. L'hôpital de Sartennes n'était pas très loin des flammes. Mais le feu serait sur le point d'être maîtrisé selon nos confrères de France Bleu, RCFM. Canadair et Engin au sol sont intervenus. Que feriez-vous si vous étiez truffe à truffe avec un ours? Un randonneur en Ariège a connu cette expérience un tantinet désagréable avant-hier. Il s'appelle Nicolas Arègle, il a 25 ans. Il se trouvait à Sais, entre Foix et la frontière espagnole. Il raconte, le son n'est pas très bon mais cela vaut le coup. D'abord il a vu un petit...
J'ai aperçu l'ourson, en fait, qui était au bord de l'eau. Dans la seconde qui a suivi, en fait, j'ai vu la mère qui était en train de charger. J'ai eu très peur sur le coup et donc je me suis mis à courir en criant pour essayer de lui faire peur, pour essayer de sauver ma peau. J'ai essayé de crier, puis je me suis aussitôt retourné et j'ai couru. J'ai réussi à attraper une branche d'un arbre, en fait, pour m'en servir de bâton, pour essayer de l'effrayer. Puis, du coup, c'était quand même bien rapproché de moi. Enfin, je devais l'avoir à 15 ou 20 mètres, quoi. Enfin, puis, elle était en train de grogner. Je pensais que j'allais me faire attraper. Et sur le coup, je pensais que c'était fini. Enfin, honnêtement, je pensais que c'était ma dernière heure.
Ouais, il a couru pendant 20 minutes avant d'alerter les gendarmes et rejoindre le village le plus proche. Ce randonneur malheureux, mais sain et sauf, était interrogé par Fanny Narvart de France Bleu Béarn. À Valence, un enseignant violemment agressé dans sa salle de classe par un père de famille. Le père est allé dans l'école de son fils qui manifestement avait été blessé dans une bagarre. Il s'est précipité dans la classe de l'enseignant. Deux coups de poing au visage devant les élèves. Puis il est reparti. Le gouvernement des États-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques en mer d'Oman. On ne peut pas faire accusation plus directe. Téhéran dément, mais les explosions dans les deux tankers hier dans le détroit d'Ormuz ont bel et bien fait monter d'un cran les tensions entre États-Unis et Iran. Comment analyser cet épisode? Nous voyons cela avec notre invité dans une seconde, François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran. Bonjour monsieur.
Bonjour.
D'abord les dernières informations. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Vous qui êtes notre correspondant dans la région, Aurélien, quels sont les derniers éléments à propos de ces explosions?
Des témoignages de marins du navire japonais transportant du méthanol, le deuxième attaqué hier matin. Selon eux, il a été touché, ce navire, par un objet volant qu'ils ont vu de leurs propres yeux. On parle là du même navire que celui filmé ensuite dans l'après-midi par un avion de reconnaissance américain. Une vidéo qui a été rendue publique la nuit dernière par le Pentagone. On y voit une vedette s'approcher de la coque du pétrolier et des hommes ont détaché quelque chose. C'est une mine navale qui n'a pas explosé selon Washington, retirée par des éléments des gardiens de la Révolution, le corps d'élite du régime iranien, à bord de l'une de leurs vedettes. Alors attaque par mine pour Washington, attaque par drone ou par missile selon les marins, les circonstances exactes de ces attaques restent encore confuses, bien que les Américains, vous le disiez, accusent désormais ouvertement l'Iran, qui dément formellement ce matin en parlant de sabotage diplomatique et de campagne anti-iranienne.
Merci Aurélien, on vous retrouve dans une seconde. François Nicoulot, sur une échelle qui irait de petite crise, intox à guerre ouverte, on est où selon vous?
Ah, on est entre 0 et 10, on doit être à 2 ou 3 quand même.
2 ou 3, donc c'est pas très élevé non plus, mais c'est déjà pas mal.
Non, mais c'est quand même là, avec les dernières frappes enfin contre des tankers à l'extérieur du détroit d'Ormuz, dans la mer d'Oman, en mer ouverte, on passe à un nouveau seuil. Il y avait déjà eu des attaques contre deux pétroliers au large des côtes des Émirats arabes unis qui sont intervenus un petit peu après que les Américains aient annulé les dernières exemptions qu'ils avaient accordées à un certain nombre de pays pour acheter du pétrole
iranien. Donc renforcer les sanctions contre l'Iran.
Voilà, donc on arrivait à un point où c'était vraiment zéro pétrole. Et là, il y a eu ce premier attentat. Il y a juste hier ou avant-hier, les Américains ont encore monté d'un cran en instaurant des sanctions sur la pétrochimie, donc, qui est aussi un mode d'exportation tout à fait stratégique pour l'Iran.
À chaque fois, ça pourrait être une réponse à une décision américaine. Est-ce que l'Iran aurait intérêt au fond, à faire monter la tension?
Ça, c'est en effet une question difficile. Non, personne n'a intérêt à une guerre ouverte et dans un conflit général, l'Iran quand même subirait des pertes épouvantables compte tenu du rapport de force. Mais il est certain qu'en ce moment, les Iraniens sont quand même pris à la gorge. Ils sont touchés dans leurs intérêts vitaux. Ils ne peuvent plus rien exporter. Certes, ce sont pas des navires de guerre américains qui coulent des pétroliers iraniens ou exportant du pétrole iranien, ce sont des sanctions financières qui touchent les sociétés, les banques, toutes sortes d'entreprises qui toucheraient d'une façon ou d'une autre du pétrole iranien. Mais quand les sanctions atteignent ce niveau de complétude, d'importance, là, le pays est étranglé, on touche vraiment aux intérêts vitaux. On arrive à une situation qui ressemble beaucoup à un blocus. Et le blocus, en loi internationale, c'est un acte de guerre.
L'Iran acculé, du coup l'Iran accusé par les États-Unis ouvertement, s'il s'avère que ce sont des Iraniens qui ont attaqué ces tankers, est-ce que c'est forcément le régime ou est-ce que ça peut être des éléments incontrôlables venus d'Iran ?
Les gens qui ont mené cette opération, si ce sont eux, ce sont les passes d'Aran. Hein. Ce sont eux qui gèrent ce type d'opération clandestine.
Et est-ce qu'ils obéissent forcément à des ordres du régime? Parce qu'il peut y avoir des dissensions en Iran.
Ils obéissent plus ou moins. Ils obéissent à l'iranienne, c'est-à-dire plus ou moins. Ils ont certainement des instructions générales. Ensuite, ils ont quand même une large marge d'appréciation sur l'heure, sur le moment, sur la façon d'agir. Hein. C'est tout à fait clair. Mais les gens du régime, les gens du gouvernement eux-mêmes, hein, Rouhani, le président Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui sont des gens modérés, ont quand même dit eux-mêmes, hein, si on nous empêche d'exporter notre pétrole, il y aura des conséquences. N'imaginez pas qu'il ne puisse pas y avoir des conséquences.
On retrouve Aurélien Colli. Aurélien, il y a un autre pays qui suit tout ça de très près, c'est l'Arabie Saoudite, le grand rival sunnite de l'Iran. Riyad avait déjà accusé l'Iran d'être derrière le sabotage de 4 navires il y a un mois, dont parlait François Nicoulot, à peu près dans la même zone. Riyad en guerre aussi au Yémen contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran.
Oui, l'Arabie Saoudite attaquée régulièrement par ses rebelles houthis, par missiles ou par drones. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, des drones avaient endommagé un oléoduc essentiel au royaume. Les houthis avaient revendiqué. Et puis avant-hier encore, 26 civils ont été blessés dans une autre attaque contre un aéroport du sud-ouest saoudien. Alors pour Riyad, derrière les rebelles houthis, il y a l'Iran, seul pays capable de leur offrir équipement et technologie pour de telles opérations. Maintenant, la probabilité que les houthis soient derrière les attaques d'hier contre les pétroliers paraît quand même assez faible, compte tenu notamment de la distance entre le Yémen et le lieu des attaques à la sortie du détroit d'Hormuz. En revanche, la défense saoudienne a déjà intercepté certains de ces drones. Si des éléments d'un objet volant, comme le disaient les marins du navire japonais, sont retrouvés sur l'un ou sur les deux pétroliers, nul doute que tout sera comparé avec ce que les Saoudiens ont entre les mains.
François Nicoulot, une façon d'analyser cette affaire, c'est de se demander à qui profite la crise depuis hier.
Elle profite d'abord au faucon de Washington. Il y a quand même autour de Trump qui, lui, au fond, est un homme d'affaires, qui voudrait trouver une solution avantageuse pour lui, bien entendu, avantageuse pour sa réélection qu'il espère en 2020 pour entamer un nouveau mandat en 2021. Donc Trump, il pousse pas à la guerre. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et même, il a invité les Iraniens à venir lui parler, à chercher des solutions. Mais il y a autour de lui quand même une équipe de faucons, de gens quand même très très durs, qui sont des croisés, vraiment, qui n'ont depuis de nombreuses années n'ont qu'une idée, c'est de casser ce régime iranien, de mettre en place à Téhéran un régime plus favorable, disons, aux intérêts américains. Et ceci, à leurs yeux, réglerait énormément de problèmes dans la région. Pour Israël, ce serait évidemment un avantage. Enfin, on voit très bien, par ricochet, tout ce que ça pourrait engendrer au bénéfice des États-Unis. Ces gens-là, et notamment Bolton, donc, qui est le conseiller pour la sécurité nationale, sont prêts véritablement à tout. Et ils sont prêts, c'est ça qui est un peu inquiétant, à pousser Trump un peu malgré lui, mais dans une situation où il ne pourra plus reculer, sans perdre la face, en quelque sorte. Et on risque d'arriver assez vite à ce point de rupture.
Il y a eu la vidéo de la nuit dernière dont parlait Aurélien Colli. On se souvient qu'une guerre en Irak a été lancée sur des images trompeuses. On y pense forcément. Quand les États-Unis accusent vidéo à l'appui, on se dit forcément, est-ce que c'est pas du bidon?
Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, précisément, c'est que les accusations lancées contre l'Iran viennent du secrétaire d'État, donc du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Pompeo, viennent un peu du département de la Défense, donc. Mais la communauté américaine du renseignement est d'un silence total. Elle n'est pas totalement en retrait. Et manifestement, ils ne montent pas en première ligne, craignant de se faire instrumentaliser comme ils avaient été instrumentalisés par le pouvoir politique au moment de l'invasion de l'Irak par George Bush. Ça, c'est quand même tout à fait intéressant.
Merci François Nicoulot d'être venu dans les studios de France Inter pour répondre à nos questions.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
10 millions d'euros d'amende pour la SFAM. Alors le nom ne vous dit sans doute rien et pourtant, vous êtes peut-être concerné. La SFAM, c'est une société qui assure les téléphones portables et les tablettes contre la casse, par exemple. C'est aussi le deuxième actionnaire de la FNAC. Alors peut-être, lorsque vous avez acheté un téléphone ou une tablette à la FNAC, vous a-t-on fait signer un papier? Il fallait le renvoyer par la poste et à la clé, il y avait une ristourne sur le téléphone. Mais Fabien Cazot a la clé. Il y a aussi une assurance vendue en douce et une pratique commerciale trompeuse. Plus de 1000 plaintes ont été déposées ces derniers mois, Fabien.
Absolument, on vous fait signer un papier qui vous promet 30 euros de réduction au moment où vous achetez votre téléphone. On vous demande aussi d'inscrire au passage vos coordonnées bancaires. Vous croyez que vous bénéficiez d'une ristourne sur l'appareil ? Eh bien non, en fait, c'est un avoir sur un contrat d'assurance qui est associé, sans qu'on vous le dise, à la vente du téléphone. Comme en plus, le premier mois est offert, vous n'êtes pas immédiatement prélevé. Et ensuite, à partir du deuxième mois, une petite ligne apparaît sur votre relevé de compte, débit de 15,99 € au profit de la SFAM. Et au bout d'un an, la somme fait plus que doubler à 37,99 €. Les premiers signalements enregistrés par l'UFC Que Choisir remontent à 2016. La pratique s'est prolongée jusqu'en 2018. Beaucoup de cas ont été recensés dans les magasins Fnac du fait des liens entre l'enseigne et la SFAM. Le partenariat commercial n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. En plus de l'amende de 10 millions d'euros, l'assureur s'engage à rembourser l'ensemble des clients lésés. Vérifiez bien donc vos relevés de compte. Vous avez jusqu'au 31 août pour contacter le service client de la SFAM ou pour vous adresser directement à la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes.
Merci Fabien Cazot. Le Rassemblement National peut-il profiter de la faiblesse de la droite pour gagner de nouvelles villes aux municipales? Le parti d'extrême droite lance ce week-end à La Rochelle sa campagne des municipales très très en avance. Quel est le plan de bataille du RN? C'est une enquête de Maxence Lambrecq pour France Inter. Allez sur franceinter.fr en particulier. Vous y trouverez la carte des 100 villes dans le viseur des lepénistes. Beaucoup d'informations et analyses inédites. Les municipales dans 9 mois, Maxence. Déjà la droite sous pression parce qu'au fond le Rassemblement National va adopter la même stratégie que La République En Marche.
Tous deux manquent cruellement d'un maillage territorial. Ils ont très peu d'élus reconnus, de personnalités implantées. Alors ils cherchent en ce moment à les amadouer, à monter avec eux des listes de rassemblement pour placer des militants. Tant pis pour la bannière et le fauteuil du maire. Les amis de Marine Le Pen, comme les marcheurs d'ailleurs, ont une cible prioritaire, les maires sortants de droite, dont l'étiquette LR ne pèse plus grand-chose, mais dont la personnalité fait encore la différence sur le terrain. Le RN y travaille surtout dans le sud-est, par exemple à Agde dans l'Hérault, Vidauban dans le Var, Millau dans le Gard, et il discute aussi avec des élus sans étiquette, à Dourges dans le Pas-de-Calais ou au Thor dans le Vaucluse. L'idée reste la même, négocier pour mieux s'implanter et espérer bâtir derrière des majorités dans les agglos ou les communautés de communes à Fréjus, Beaucaire ou Hénin-Beaumont notamment. Le RN présentera moins de listes qu'en 2014 et ne décrochera sans doute qu'une vingtaine de villes, mais réussira peut-être à densifier son réseau en vue des élections départementales et régionales.
Maxence Lambrecq, cette enquête est donc à retrouver en détail sur franceinter.fr, cartes et informations à l'appui. Un sujet de réflexion pour le Premier ministre qui a promis une accélération écologique dans l'action de son gouvernement. La France a des milliers de kilomètres de côte, un immense domaine maritime, métropole et dom-tom, mais seulement 2 éoliennes prototypes raccordées au réseau. Alors est-ce que ça va changer? Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Le ministre de l'écologie François Drugy à Saint-Nazaire ce matin pour lancer au fond l'éolien en mer côté français.
Oui, c'est vrai qu'on compte 3600 éoliennes en Europe mais seulement 2 au large des côtes françaises et c'est surprenant, il y a plusieurs raisons. D'abord les recours en justice quasi systématiques. Oui. Saint-Nazaire et ses 80 éoliennes est le premier parc à avoir épuisé tous les recours. Le Conseil d'État vient de valider ce projet et dans la foulée, 5 ou 6 parcs éoliens pourraient sortir de mer à partir de 2021 au large de Saint-Brieuc, de Dieppe, Noirmoutier ou encore Dunkerque. 45 éoliennes vont être construites en mer du Nord par le consortium d'EDF. C'est François de Rugy, le ministre de la Transition énergétique, qui l'a annoncé ce matin. Le rythme va s'accélérer. L'ambition du gouvernement, c'est de lancer chaque année des appels d'offres pour des parcs éoliens offshore de très grosse capacité, 1 gigawatt. C'est l'équivalent de la puissance d'un réacteur nucléaire, de quoi éclairer 1 million de foyers. Alors pourquoi ce coup d'accélérateur? Eh bien au-delà de la protection du climat, c'est aussi une question de prix. L'éolien est compétitif. À Dunkerque, le prix fixé pour l'électricité ne dépasse pas 50 euros contre 62 euros pour le nucléaire. Ce sont aussi des emplois à la clé, 10 000 emplois à Saint-Nazaire. Alors reste à en convaincre les salariés de la centrale à charbon de Cordemais, qui elle va fermer avec 1 an d'avance. Ce matin, ces salariés bloquaient l'usine de General Electric, non loin de là, celle qui fabriquera les éoliennes.
Merci Delphine Simon. Rayon consommation à réécouter sur franceinter.fr, la chronique de Julien Baldacchino, Net plus Ultra, à propos des robots ménagers connectés à petit prix vendus récemment chez Lidl. Il y a beaucoup de failles de sécurité. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec la Coupe du Monde féminine. Et des grands pays de football sur le terrain, 21h ce soir, Angleterre-Argentine, 18h avant cela, l'Italie face à la Jamaïque, le Brésil battu hier par l'Australie 3-2. Grand pays tout court, la Chine a perdu 1-0 face à l'Afrique du Sud. Guillaume Batin, la Chine, pays incontournable au plan diplomatique, politique, économique. Son équipe de foot n'est pas favorite de la Coupe du Monde, mais Guillaume, s'il y avait un match à qui sera le plus patriote, elle gagnerait.
La patrie dans mon cœur, c'était le thème de la conférence organisée spécialement pour l'équipe chinoise féminine de football avant le début de la Coupe du Monde. Des cours de patriotisme obligatoires, censés inculquer aux joueuses l'amour de la Chine. Elles ont étudié la constitution et les principales lois du pays. Des photos officielles montrent celles que l'on surnomme les roses d'acier, comme à l'école, cahier et stylo en main, face à un écran et un drapeau rouge géant. 1,4 milliard de Chinois regardent leurs exploits à la télévision d'État, et notamment ceux de la star Wang Chuan, qui est devenue ingérable depuis qu'elle a signé au Paris Saint-Germain, d'après le sélectionneur. Une défaite 1-0 face aux Allemandes, double championne du monde, et cette victoire hier face à l'Afrique du Sud qui leur permet de croire encore au huitième de finale. Xi Jinping n'en rate pas une miette, le président chinois qui rêve de revoir son équipe en finale, comme en 1999 face aux États-Unis, car la Chine investit des centaines de milliards de yuan pour devenir une place forte du football mondial dans les années qui viennent.
Le foot chez les garçons à Sao Paulo, la Copa América commence ce week-end. Brésil-Bolivie en ouverture la nuit prochaine. Le Brésil sans Neymar, la star du Paris Saint-Germain, blessé et entendu hier par la police pour répondre aux accusations de viol lancées contre lui. Au PSG, justement, Leonardo va-t-il officiellement succéder à Antero Henrique comme directeur sportif? La presse n'a quasiment plus de doute, reste donc à officialiser. Et puis au Real Madrid, le Belge Eden Hazard a été présenté aux supporters hier. Le week-end de sport, c'est aussi de la boxe. Il y a 3 ans, médaille d'or et histoire d'amour avec Tony Yoka. Elle était un des rayons de soleil français aux Jeux de Rio. Estelle Yoka Mosley tente ce soir de devenir championne du monde IBO de boxe. Ce n'est que son 5e combat professionnel. En cyclisme, la fin du Dauphiné, 3 semaines avant le Tour de France. L'anglais Adam Yates en tête pour l'instant. Et puis en golf, tournoi du Grand Chelem, l'US Open, avantage à un autre anglais après le premier tour, Justin Rose. Ce sont les journées nationales de l'archéologie jusqu'à dimanche. Des idées de sortie dans la France entière et bien souvent, le public pourra mettre la main à la truelle, au pinceau et à la brosse. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Eh bien, Mathilde Dehimy a testé l'archéologie. Mathilde, vous êtes allée à Noisy-le-Grand. Il y a 10 ans, on y a découvert l'une des plus grandes nécropoles de France. 800 tombes mérovingiennes et carolingiennes. Le chantier a été recouvert par un projet immobilier, mais les archéologues ont commencé il y a une semaine à creuser à côté. Ils ont déjà dégagé 13 sépultures. Allez Mathilde, au boulot avec un gentil formateur, Cyril Laforestier, qui est archéo-anthropologue.
Devant nous, nous avons une sépulture carolingienne, donc entre l'an 800 et l'an 1000. Et donc le but, c'est de dégager la terre qui recouvre le squelette. Il faut fouiller minutieusement pour voir comment s'articulent les os entre eux, pour après déterminer s'il y avait la présence d'un linceul, d'une chemise, d'un coussin céphalique, de chaussures, vu qu'il n'y a plus du tout de tissu, qu'il n'y a plus de bois, qu'il n'y a plus de chair. On a comme indice justement la position des ossements qui vont réagir différemment en fonction de leur environnement.
Donc là j'y vais, je prends la truelle,
voilà,
et, puis on et je gratte au milieu hein, voilà, de la sépulture.
Attention de ne pas casser les ossements. Voilà, on peut y aller un peu plus fort, hein, pas hésiter. Là c'est assez résistant, hein. On a près de 3,5 kg d'ossements dans le corps.
C'est pas mal du tout pour une première.
Est-ce qu'il y a une position particulière pour se mettre?
Mais c'est souvent à genoux en vis-à-vis du squelette, parce qu'en fait on fouille beaucoup mieux lorsqu'on est en reflet avec le squelette. On sait que le crâne c'est au niveau du crâne, que nos bras sont au niveau des bras du squelette, donc en fait il faut toujours fouiller en miroir.
Alors je suis pas totalement en face pour vous laisser de la place.
Oui. Enfin pour aller vite, il faut vraiment se mettre comme ça.
Montrez-moi le bon geste.
D'accord. Donc déjà faut bien libérer.
Ah oui, vous allez beaucoup plus vite que moi.
Bah là on ne se fait rien parce que si l'épaule est là, progressivement s'approcher de l'individu.
Vous voyez quelque chose arriver
là, on voit les côtes apparaître. Si vous voyez,
vous avez l'œil.
On voit une côte qui apparaît.
Je crois que je vois quelque chose.
Alors là, c'est un caillou.
Raté. Bon, quand on est archéologue, Mathilde Dehimy, il faut apprendre à composer aussi avec la météo, pluie, boue, chaussures, crado. Vous avez testé à l'abri l'une des attractions de ces journées portes ouvertes archéologie à Noisy-le-Grand, un escape game posé à même la nécropole.
C'est là-dedans ?
Oui, c'est là-dedans.
On va essayer de jouer.
D'accord.
Alors, Escape Game, vous m'enfermez pas ?
Non.
C'est une magnifique cabane. On a l'impression de rentrer chez Indiana Jones. Est-ce que je peux rentrer avec les chaussures toutes crottées ? On est où, là ?
On est en fait chez Rose Dubois. C'est un personnage fictif qu'on a inventé en fait avec l'équipe. Donc, c'est une archéologue des années 50 qui a fouillé aussi sur nos îles grandes. Et donc, le principe est assez simple. Pour arrêter la sirène qui tourne, parce que quand on rentre dans l'Escape Game, la sirène se met en route. Et donc, ça pourrait alerter les pilleurs de sépultures. Et donc, du coup, il faut trouver ces quatre numéros-là en 15 minutes.
Et le temps presse. Donc, le premier numéro, j'ai le droit de fouiller partout. Dans les sacs de Rose Dubois, des mètres. Des cordes.
C'est ça, voilà, on a différentes énigmes. Je ne vais pas non plus tout vous dire parce qu'après, ceux qui écoutent ne pourront pas venir parce qu'on aura déjà tout révélé. Mais c'est de regarder dans les cahiers de l'archéologue, de mesurer un crâne, de trier des perles. Les mérovingiens mettent beaucoup de colliers en perles. Et ensuite, un autre indice mystérieux que je ne peux pas vraiment vous révéler aujourd'hui.
Je crois que j'ai une petite idée.
D'accord.
On va la chercher ensemble.
Allons-y.
Et elle garde le mystère. Alors, si vous voulez lever ce mystère, c'est donc à Noisy-le-Grand ce week-end, tout près de la mairie. Et globalement, les journées nationales de l'archéologie, c'est dans toute la France. Vous avez des informations sur le site journée au pluriel archéologie.fr, journée-archéologie.fr. Si vous voulez rester à l'intérieur, une idée de série, vous vous souvenez peut-être du film Drive qui a lancé la carrière de Ryan Gosling. Le réalisateur de Drive, Nicholas Winding Refn, se lance dans les séries et celle qui arrive sur les écrans aujourd'hui en France s'appelle Too Old to Die Young. C'est une réussite, Alexandra Akoun, mais on est loin de la vitesse de Drive.
Pour entrer dans l'univers de Nicholas Winding Refn, il ne faut craindre ni les silences en anglais,
are you in trouble?
No.
Ni en espagnol,
cada una de sus lágrimas era como un sueño que ella había tenido para ti.
Accepter cette temporalité inédite pour une série, 10 épisodes de 90 minutes en moyenne, que le réalisateur de Drive a pensé comme un film de 15 heures, une lenteur qui installe un climat tout aussi envoûtant que poisseux.
Killed a woman the other night.
On y retrouve tout ce qui fait la patte de Nicholas Winding Refn, un Los Angeles des bas-fonds baigné de lumière néon et de cocaïne, un héros taiseux et solitaire, un policier en l'occurrence, campé par Miles Teller, jeune révélation de Whiplash, flic le jour, il devient tueur à gages la nuit après la mort de son coéquipier. C'est violent et pourtant il y a de la grâce et de la poésie dans la façon dont la caméra glisse en long travelling, s'attache à certains détails, le phare d'une voiture, une Santiago blanche dans la poussière du Nouveau-Mexique. Mais contrairement à David Lynch, à qui on le compare trop facilement, Winding Refn ne perd jamais le fil de sa narration et fait de Too Old to Die Young une expérience hypnotique portée par la musique de Cliff Martinez.
Et c'est à voir sur Amazon Prime Video, cette série. D'autres idées culture à la rubrique musique et vieille gloire. Pour ce week-end sortent aujourd'hui les nouveaux albums de Madonna et Bruce Springsteen. Parmi les festivals, citons Mars Attack à Marseille avec notamment Edith Preto et dans le Nord, Lille Piano Festival avec Nelson Frère, Bertrand Chamaillou et Thomas Enko. Et puis au-delà de la culture, au rayon des bonnes actions, ce vendredi est la journée mondiale des donneurs de sang et c'est très important. En France, les réserves sont à leur plus bas depuis 8 ans. Voilà qui est dit.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas.
Après-midi torride sur la façade ouest de la Corse, les températures sont très élevées, pouvant même atteindre la barre des 40 degrés pour la première fois de l'année. Ce coup de chaleur intense est bref puisque les températures vont commencer à baisser en cours d'après-midi. Sur l'Hexagone, les maximales sont plus modérées, variant de 17 à 25 degrés avec tout de même 24 à 33 degrés sur le quart sud-est. Côté ciel, des averses et des orages circulent du massif central vers les régions du nord-est. Une nouvelle vague orageuse va se développer avant la fin de journée de l'Occitanie à l'Auvergne, puis glissera vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est en soirée et la nuit prochaine. Cette nouvelle vague d'orage pourra s'accompagner de grêles localement. Quelques averses moins nombreuses et plus isolées sont attendues en Bretagne, Normandie et sur les Alpes. Ailleurs, on profite de belles éclaircies, le soleil se montrant davantage entre les Pays de la Loire et la Côte d'Opale ainsi qu'en Provence.